Monsieur de Parpe, bonjour, vous êtes sur Radio Campus, vous êtes le directeur conservateur du musée Henri Matisse, et pendant 2 mois, il y a une exposition remarquable qui va envahir les murs de ce musée, Devenir Matisse. Alors, pour une telle conception d'exposition, c'est pas une mince affaire.
Non, bonjour à tous. Et même pour votre grand plaisir, ça ne sera pas 2 mois, mais carrément 3 mois, puisque on va clore cette exposition que l'on débute aujourd'hui, le 9 février 2020. Donc effectivement, c'est un projet d'importance, un projet qui est né il y a 5 ans, hein, à peu près. Et il faut bien tout ce temps pour pouvoir avoir les œuvres qu'on a sollicitées, parce que c'est un projet ambitieux qui nécessitait la présence d'œuvres extrêmement importantes des plus grands musées. On parle de chefs-d'œuvre, en fait, pour cet hommage à Matisse en cette année du 150e anniversaire. Alors, des chefs-d'œuvre, pourquoi non pas, et des grands noms d'artistes, pourquoi non pas pour faire le buzz, mais parce que le propos scientifique de l'exposition le réclamait. À savoir que Matisse, pour se construire, pour devenir un artiste, eh bien, il a copié, il s'est confronté, et il a même cherché à dépasser les plus grands maîtres et les œuvres les plus importantes que ces grands maîtres ont produites. Donc, quand Matisse fait une copie, il fait une copie du meilleur de ce que l'artiste a pu faire. Il ne va pas aller chercher un tableau peut-être moins abouti. Donc, tout l'enjeu de cette exposition était de réunir ces tableaux très importants que Matisse a copiés. Parfois, ce sont même des sculptures pour Rodin, pour un Hermès du IVe siècle, par exemple, et de les replacer dans ce contexte de l'évolution et de la création artistique de Matisse.
Alors, il faut bien dire donc qu'il y a plus de 200 tableaux de Matisse, donc 200 œuvres de Matisse, et il y a une bonne cinquantaine, je pense, d'œuvres de peintres qui ont influencé Matisse. Mais avant tout, ça correspond à une période de sa vie. On retrace bien quand même là les 20 premières années de la vie de Matisse, dans le territoire du Cormoisy.
Toute l'originalité du projet, d'abord, ça découle d'une surprise, à savoir qu'on constate il y a 5 ans qu'il n'y a jamais eu une exposition consacrée au début de Matisse. Ça peut paraître assez incroyable, mais c'est la réalité. Donc, le musée fondé par Matisse lui-même ce 9 novembre 52, nous décidons de combler ce vide et donc de montrer comment le jeune Henri, qui n'est pas du tout destiné à la peinture au début, puisqu'il est clerc de notaire, il est allé faire un an d'études à Paris, il n'a pas mis les pieds dans les musées, a soudain cette révélation de la peinture, alors un événement fortuit, une hospitalisation, et décide de tout lâcher pour devenir peintre, ce qui nécessite un courage et une force de conviction certaines à l'époque, et donc d'apprendre à dessiner, d'apprendre à peindre, de rattraper le retard, puisque de fait il va devenir un étudiant âgé, par rapport à ça. Il va donc monter à Paris, rentrer dans les académies, devenir un étudiant refusé, puisqu'il présente le concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts et les chantres de l'académie à l'époque déterminent que son travail n'est pas satisfaisant. Donc il va prendre des chemins détournés, mais avec cette pugnacité, ce courage, il va continuer à travailler, à progresser dans le dessin, dans la peinture. Et il va avoir comme, je dirais, piédestal un peu le Louvre où Gustave Moreau va l'emmener pour copier les grands maîtres. Et c'est justement en copiant ce qui était à l'époque considéré comme le meilleur de la peinture, à savoir l'arrêt de Chardin par exemple, et les grands classiques comme David Deheme et ce type de peintre ou de sculpteur comme Barry pour la sculpture animalière, que Matisse va se construire et prendre conscience aussi que c'est très bien de copier les grands maîtres, mais qu'il faut aussi être soi-même. Et c'est cette construction, c'est comment il arrive à devenir soi-même et pas être l'artiste qui va entrer dans un mouvement répétitif, dans une facilité. À un moment, il arrive à vendre des tableaux, il voit que ça plaît bien les natures mortes qu'il fait, et bien il décide de les supprimer parce que pour lui c'est trop facile, il faut aller au-delà de ça. Et donc c'est toute cette recherche volontaire d'une nouvelle voie qui est décrite dans ces 20 premières années de la carrière de Matisse.
Alors, une telle exposition, elle a demandé 5 ans, hein, 5 ans bah, pour penser à la scénographie, pour penser donc, à récupérer des œuvres qui viennent d'un peu partout. Ça vient donc à la fois d'un grand nombre de musées, d'Europe, mais bien au-delà.
Alors, la première partie de l'exposition, elle nécessitait une coopération essentielle. Je dirais même que sans cette coopération, l'exposition n'était pas possible ou aurait été très modeste. C'est la coopération du Louvre. Puisque pour avoir les œuvres originales que Matisse va copier, il faut avoir les œuvres du Louvre. Et là, le musée du Louvre a eu envers nous une générosité incroyable, et nous avons ici présenté eh bien, l'Apollon Piombino du 1er siècle après Jésus-Christ, un Kouros grec, le Hermès Cincinnatus, Barry, mais aussi donc, les peintures de Chardin, Ribera, de M, donc toute cette base classique que Matisse a acquise et qu'on met en relation avec les dessins qu'il en a fait, avec les peintures qu'il a copiées, avec les sculptures qu'il a reproduites. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et puis après, nous sommes par définition, par nature, obligés, quand on est un musée Matisse, d'aller chercher les tableaux à l'étranger, puisque une grande partie des collections Matisse, en fait, eh bien, sont dans les musées à l'étranger, notamment américains, sont dans les grandes collections américaines, parce que souvent, la France a un temps de retard, et avant qu'on reconnaisse la qualité de Matisse comme artiste, eh bien, il y avait bien d'autres pays étrangers qui s'étaient dépêchés d'acheter ses œuvres, comme la Suède, le Danemark, etc.
Oui, quand on peut le voir d'ailleurs dans l'exposition, le Cyrano de Bergerac qui est au MoMA, et alors qu'il était, c'était un tableau à peine reconnu. Enfin, bon.
Alors ce qui est pour nous un grand plaisir, c'est que par exemple j'ai au même moment ici au musée le conservateur du musée Pushkin à côté de la conservatrice du MoMA, à côté de celle d'Oslo, et puis d'autres grands musées parisiens aussi. Le deuxième point fort de l'exposition, c'est la participation du centre Georges Pompidou, du musée national d'art moderne, qui a consenti des prêts en amenant ici, par exemple, Luxe, Calme et Volupté, des tableaux qui ne sont pratiquement jamais sortis de Paris. Idem pour Orsay. Après, c'est un phénomène un peu de cascade quand les collègues voient ce qu'on a réussi à obtenir. Et donc, on a Orsay, on a Picasso, on a le musée Rodin qui nous prête 6 sculptures, mais aussi le Quai Branly, par exemple, le musée de la ville de Paris, et puis les grands musées de... Allez, je le redis, deux provinces que sont Lyon, Lille, le prêt des jeunes de Goya,
les Goya
ici,
de Lille, hein.
Qui ont été déterminants pour la poursuite de la carrière de Matisse. Voilà, c'est une grande joie de les avoir.
Mais pour le musée, c'est quand même des conditions d'accrochage, de sécurité qui doivent quand même être aussi conséquentes. C'est pas rien. Au-delà des emplacements, au-delà effectivement... Bon, des dimensions du musée lui-même, mais il y a quand même un certain nombre de conditions qui doivent être respectées, et ça, c'est pas une mince affaire.
Je dirais que nous, au moins, on a un avantage, c'est que déjà, nous sommes un musée Matisse, et donc, avec les collections qui sont déjà présentes, on a un tel niveau d'exigence et de sécurité qu'en fait, on peut répondre positivement à toutes les exigences que nous demandent la Tate, le MoMA et tous les grands musées, y compris les collectionneurs. Donc on a déjà cette base-là. Après, évidemment que quand on reçoit l'autoportrait de Matisse, de Picasso de 1906 qui vient de Philadelphie et qu'on met à côté d'ailleurs de celui de Copenhague de 1906, les deux œuvres ensemble en conditions de transport, etc., d'accrochage, il y a un professionnalisme qui doit être reconnu pour que ces œuvres viennent. Mais comme elles sont là, c'est que les collègues ont jugé que c'était très suffisant ce qu'on leur a proposé.
Et c'est quand même une grande chance pour tout le territoire natal de Matisse, de pouvoir mettre donc cette exposition aux yeux de toute cette population.
Ben c'est un des enjeux aussi, la mission de service public culturel du musée, c'est d'amener sur un territoire des œuvres qui viennent donc du monde entier. On est le seul musée au monde cette année à qui le MoMA a prêté, parce qu'ils viennent de réouvrir il y a 2 semaines avec leur extension énorme, gigantesque, et donc que les gens puissent avoir ce rassemblement d'œuvres mais aussi de voir comment s'est établie une relation entre Matisse, artiste du territoire, et ce territoire est importante, et c'est une opportunité culturelle, c'est une opportunité touristique pour une région, le Cambrésis, qui est peut-être un peu éloignée des grands centres urbains.
Oui, donc ce projet, enfin cette exposition, elle est considérée d'intérêt national par le ministère de la Culture, et c'est le seul musée des Hauts-de-France qui a été reconnu.
Oui, mes collègues ont fait très belles expositions cette année. Il y a Picasso à Toulouse, à Tourcoing en ce moment, les expositions de Bruno à Roubaix, ou les expositions du musée de Lille, le LAM qui a fait cette magnifique exposition de Giacometti. Mais le musée qui a obtenu ce label prestigieux d'intérêt national, c'est le musée Matisse. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi l'originalité du sujet et l'ampleur de la présentation. Donc, comme vous le disiez, 250 œuvres de Matisse, 50 œuvres des grands maîtres, ça fait partie, accompagné par un catalogue qui fera référence aussi, puisque c'est la première fois que ce sujet est traité, donc c'est aussi la diffusion culturelle à partir du musée. Tiens, d'ailleurs, hier soir, je recevais un mail pour dire que la dernière exposition que nous avons organisée en collaboration avec le musée de Phoenix aux États-Unis venait d'être récompensée par une inscription de l'université d'Harvard comme étant un des meilleurs catalogues produits cette année aux États-Unis.
Eh bien, monsieur Depard, je vous remercie beaucoup. C'est alors, vrai. On peut dire aussi que donc, le site du musée a été rénové, dans le cadre peut-être aussi de cette exposition. Il est toujours, bien sûr, maintenant là. Il est maintenant disponible, quoi.
Oui, nous avons un site internet, et puis maintenant, il y a plein de community managers, etc. Donc, sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez avoir les informations sur le musée. Et puis, chose aussi importante, tout à l'heure, lors de l'inauguration officielle, le président du département va annoncer l'agrandissement du musée. Donc, pour nous, c'est aussi un peu le premier étage de la fusée que cette exposition, et qui va nous emmener maintenant, pour 2022, vers un musée agrandi et rénové.
Voilà, c'est le devenir, c'est l'avenir du musée Matisse.
Aussi.
Merci, monsieur Depard.
Merci beaucoup.